Chapitre 13. Tiens, voilà, monsieur, mon neveu. Viens donc, Jean, que je t'embrasse. Non, non, je peux me lever, voilà. Croyais-tu donc me trouver mort? Voyons, mon oncle, quelle idée. Allons, pas de pieux mensonge, même pour un chanoine. Allons, c'est ta mère, ma bonne Antoinette, qui t'a fait appeler, n'est-ce pas? Je suis donc si bas que cela. Alors, ne croyez pas cela, personne ne m'a fait venir. Vous savez que je rentre à Namur dès que j'en ai l'occasion, et il se fait que c'est aujourd'hui. Mais disant cela, il rougissait comme un gamin pris en faute, quoiqu'il dût avoir 35 ans bien sonné. C'était un homme plutôt rond, qu'on ne pourrait mieux décrire qu'en imaginant au vieil homme son oncle la moitié de son âge. Aller voir ensemble en rue, chacun se serait dit, tiens, voici assurément le père et le fils, s'ils n'avaient porté tous deux l'habit religieux, ce qui, sans empêcher la paternité, la rend plus rare et en tout cas plus discrète. Bien sûr, d'autant que tu nous reviens souvent au mois de mai, les autres années. Mais je ne t'en blâme pas, au contraire, c'est bien ainsi. Ce Jean était donc le fils d'Antoinette et de son digne époux Simon Léonard. Il était chanoine à Ivoix, comme un autre Jean avait été avant lui. Ah, tu fais bonne route au moins? Ma foi, oui, c'est plaisir de voyager en cette saison. La route est longue, mais la nature est belle. 27 lieues exactement, j'ai fait le chemin bien souvent, et j'en connais tous les bosquets. Tu es venu en 3 jours? En 3 jours, oui. Mais ce disant, le brave homme rougissait encore. Allons donc, il paraît qu'on se sera tardé en chemin, pensa le vieil homme. Et quoi de neuf sur les bords du Cher? Oh, vous savez, la place est tranquille, il s'y passe peu de choses. Le notateur t'a donc laissé partir, n'est-il pas trop sévère? Oh, il n'a guère le motif de l'être, je suis peu absent. Sans doute êtes-vous plus qu'en mon temps respectueux de la règle. J'ai eu jadis un collègue nommé Chénois, qui l'était beaucoup moins. Peut-être ai-je déjà raconté. On n'était pas encore au mois de juillet qu'il avait épuisé déjà son lot de jours d'absence de l'année. Selon l'usage, le notateur l'avait donc appelé par 3 fois, en criant son nom, à la porte de l'église, le jour même avant vêpres et le lendemain après la messe. Ah, Bernique pour les gros fruits. Comme tu dis, adieu pour sa part des revenus du chapitre. Il est arrivé le lendemain, pensant être encore dans les temps, mais il avait mal fait son compte et se retrouvait forain. Et il a beau hurler, en appeler à l'évêque, rien à faire. Il a donc dû courir tous les offices pendant une année entière. Il le fallait bien s'il voulait vivre, et lui qui d'habitude dormait jusqu'au milieu de la matinée, et on le voyait même se lever la nuit pour toucher le plomb des petites heures. Mais, mon oncle, comment faisiez-vous quand vous étiez en Espagne? Vous ne pouviez résister. Ah, par exception, les chantres employés pour le roi étaient réputés, occupés au profit du chapitre. Cela tenait aux donations que Philippe avait jadis faites à Notre-Dame. Je touchais donc les gros fruits, mais eux seulement, sans donc le produit des plombs. Et ainsi, tous deux échangeaient des questions-réponses connues d'avance, s'étourdissaient de vains propos, évitant la peine d'avoir à penser et parler du sujet véritable qui les réunissait. Ils avaient toujours un peu eu les rapports d'un père et son fils, avec ce que cela suppose de gêne et de silence, d'accords secrets. Non que l'auteur véritable des jours du jeune homme fût absent, ni même eût failli à sa tâche, mais voilà, sans doute le chemin tracé par tonton Jean était-il plus doux à suivre que celui de papa Simon, la religion plus avantageuse que la boutique. C'était depuis toujours la vie générale, spécialement celui du neveu, dont le naturel tranquille s'accommodait mieux de la quiétude des chapelles que de l'agitation du commerce. Il avait donc appris la musique, chanté à Notre-Dame, étudié plus tard la théologie, mais il n'avait pas connu, loin s'en fallait, le destin de son oncle. Ce n'était plus l'époque où les petits chanteurs namurois s'en allaient au bout du monde, et si même ce temps avait perduré, sans doute eût-ce été pour d'autres que lui. Non, il s'était contenté de cette prébende et en vivait petitement dans ce médiocre contentement de l'esprit que valent l'absence d'orgueil et le défaut d'ambition. Les deux hommes s'étaient posé la question, s'en dirait-il davantage que de coutume en cette occasion dont ils savaient qu'elle ne serait pas suivie de beaucoup d'autres. Mais non, rien ne changeait. Il était écrit que le vieil homme n'aurait pour confidente que sa nièce. Avec elle du moins, point d'embarras, il se connaissait par cœur, et si parfois il se disait peu, c'était moins par pudeur que parce que, déjà, il s'était tout dit. Il pensait à tout cela dans le long silence qui se fit alors. « Tiens, Jean, à toi je laisse mon épinette et mes musiques. J'en ai une caisse entière, et il est là-dedans des choses qui feraient le bonheur de bien des chapelles. » L'autre ne répondit pas et fit seulement du bras un petit geste embarrassé, comme s'il ne voulait entendre parler de cela, comme s'il était trop tôt encore, trop tard déjà. Cette mesure extrême que l'on attendait, dont on avait tant parlé et depuis tant d'années, qu'il fallait bien qu'elle fût prise un jour, quelle qu'en fût l'énormité et quelles qu'en puissent être les conséquences pour l'Espagne, cette mesure donc fut prise en cette année 1609. Le roi Philippe III ordonna l'expulsion de tous les morts vivants dans son royaume. Ceux qu'on nommait jadis chez nous Sarrasins et qui avaient été un temps maîtres de presque toute l'Espagne allaient donc devoir l'acquitter, s'embarquer pour les terres d'Afrique dont ils ne connaissaient rien et où ils n'avaient nulle attache hormis celle de la religion. Curieusement, il en fut peu pour se réjouir publiquement d'une extrémité à laquelle ils avaient pourtant poussé. C'est que souvent on s'étourdit à des idées dont il y a peu de chances qu'elles se concrétisent un jour, par une sorte de jeu, précisément parce qu'on les sait improbables, mais on est tout perdu quand advient ce qu'on a bruyamment appelé de ses vœux. Les chiens qui courent après les charrettes et diligences ne font pas autrement, ils seraient bien ennuyés si un jour ils en attrapaient une. Les jésuites même, dont j'avais toujours eu le sentiment qu'ils voulaient cet édit, passaient soudain pour les moins résolus. Eux qui naguère excluaient de leur rang quiconque avait quelque origine juive ou mauresque, ne venaient-ils pas de se dédire en faisant exception pour ceux qui étaient de famille honnête et d'honorable réputation, pourvu qu'ils fassent preuve prudente et exacte d'une ascendance chrétienne jusqu'à la cinquième génération? Don Hieronimo ne décolérait pas. La stratégie de ceux de son parti avait fait long feu. J'osais le taquiner sur ces puissants moyens dont il m'avait parlé, ce mélange de persuasion, de corruption et de chantage qui paraissait souverain pour garder à la raison les puissants du royaume. Ne m'en parle pas, le roi est fou. Il a déjà ruiné l'Espagne par ses caprices et les mille gaspillages de sa cour de fainéants. Voilà qu'il l'amène à sa perte plus sûrement encore. C'est lui seul qui a décidé, contre tous ceux qui voulaient l'en dissuader. Lui seul qui devra rendre compte devant Dieu de cette méchanceté. On craignit une révolte comme celle qu'on avait connue 40 années plus tôt et qu'avait su mater le grand Don Juan, celui-là même qui était mort de la peste dans un colombier de Namur. Et puis mille histoires couraient sur les réserves d'armes des morts, sur ces menées secrètes visant à égorger tous les prêtres dans leurs lits, à enlever les enfants chrétiens pour les mener en esclavage. Sans doute, tout n'était-il pas inventé. Il devait s'être ménagé, çà et là, des moyens de défense, et l'extrémité où on les mettait mènerait plus d'un sans doute à des actions dictées par l'énergie du désespoir. En entrant jadis en Espagne, j'avais été frappé par ces cortèges de morts qu'on menait aux quatre coins du pays. Il s'agissait alors de les perdre dans la masse des chrétiens, à la fois pour les convertir et leur ôter toute puissance. Mais la manœuvre avait échoué, et j'allais maintenant voir le procédé inverse. On allait les tirer de tous les villages de Castille et d'Aragon, où on les avait mis, et les mener à ces ports du Levant, d'où on les embarquerait pour les côtes barbaresques. Ces gens étaient nombreux, à tout le moins 1 habitant sur 20, on en voyait partout, même à Madrid, mais d'autant plus qu'on allait du nord-ouest, vieux chrétien, vers le sud-est, du côté de Valence. C'est là qu'ils étaient le plus nombreux, formant parfois la plus grande part de la population. On apprit rapidement comment la mesure serait exécutée. Les provinces de Valence, de Murcie et d'Andalousie seraient purifiées les premières, l'Aragon suivrait l'année suivante et en 1611 la Castille, l'Estramadure et la Mancha. Le sort des enfants fut un temps incertain, et ce n'était pas une mince affaire car ces gens étaient bien plus prolifiques que les chrétiens. Il fut d'abord décidé de retenir tous ceux qui n'avaient pas atteint l'âge de 4 ans et de les élever dans le christianisme. Cela ne se put faire, car si les morts semblaient généralement résignés, ils regimbaient quand on voulait les enlever à leurs enfants, et à vouloir trop bien faire, on risquait de manquer l'entreprise. Qu'en faire alors, car ils risquaient d'être demain autant d'ennemis nouveaux élevés dans la haine de l'Espagne? Il fut question de les garder comme esclaves, et certains esprits, à la fois pratiques et chrétiens, conseillèrent de les massacrer après leur avoir donné le baptême. Finalement, le roi résolut de les déporter comme les autres. Dès que l'ordre royal fut connu, on sentit quelques tensions en ville. Beaucoup de soldats circulaient, prêts à réprimer tout désordre. Mais c'était vaine précaution. D'abord, il y avait peu de morts à Madrid. Ensuite, ils n'étaient pas les premiers visés. Et un malheur qu'on attend que pour l'an prochain n'en est pas encore un vraiment. Ils se laissèrent donc faire comme moutons qu'on mène tranquillement se faire couper le cou. C'est la chose bien curieuse. tandis que souvent les hommes s'exaltent aux idées nouvelles, se montent la tête, et ce d'autant plus qu'ils sont nombreux, on dirait qu'au contraire le malheur a raison des foules, que la masse étouffe alors tout ce que l'individu aurait d'ardent ou de révolté. La déportation s'organisa promptement, famille après famille, maison après maison, village après village. Les morts qui en recevaient l'ordre avaient 3 jours pour s'en aller vers les ports qu'on leur désignait. On les embarqua donc vers l'Afrique. Ils n'avaient nul parent pour les accueillir sur ces rivages étrangers. Leurs coreligionnaires ne voulaient pas d'eux, et l'on dit que la plus grande part mourut de misère et de faim. Personne ne broncha, ni les principaux intéressés résignés à leur malheur, ni les chrétiens qui s'étaient opposés au dessein du pouvoir au temps où il n'était encore que spéculation. La soumission à l'autorité royale excusa ce qu'il pouvait y avoir de lâcheté dans ce silence, et tout au plus témoigna-t-on un peu d'apitoiement pour ces morts qu'on ne verrait bientôt plus. Ne serait-il pas en fin de compte mieux là-bas, tous ensemble, avec ceux de leur religion, du moins leurs biens confisqués, signifiait-il un peu d'impôts en moins pour le bon peuple? Je fus lâche, comme les autres, à ceci près que me vint l'idée d'une petite fantaisie. Je composais un miserere dans la façon de la musique d'Andalousie, en ne mettant par exemple qu'un demi-ton entre les 2 derniers degrés de la gamme. Je voulais en faire une sorte d'adieu fraternel à ceux qu'on chassait, y mettre un peu de la compassion que m'inspirait la chose. On chanta à la chapelle de l'évêque cette messe assez bien faite pour sonner joliment. Ceux qui en remarquèrent la curiosité voulurent y voir le triomphe de la vraie religion sur l'engeance mauresque et m'en félicitèrent. Ce n'était pas vraiment l'intention que j'avais voulu y mettre, mais peut-être valait-il mieux qu'il en fût ainsi. La cadence finale de ce malentendu en forme de miserere, où le la va se frotter contre le si avant de retomber sur un bon accord de mi, fut aussi la dernière harmonie que le vice-maître de la chapelle composa pour son roi. Cela, il ne le savait pas encore. Au cours de l'hiver, les embarras de la diplomatie, au premier rang desquels les affaires de cœur du roi Henri, envenimèrent dangereusement les relations entre la France et l'Espagne. Un nouvel épisode était survenu dans la passion du vieux roi pour la belle Charlotte. Comme l'archiduc Albert se refusait toujours à violer les lois de l'hospitalité en livrant la princesse à son royal amoureux, l'enragé avait résolu de la faire enlever à Bruxelles. Elle séjournait pour lors chez la sœur de son mari, Éléonore de Bourbon, qui vivait depuis quelques années aux Pays-Bas, où elle s'était mariée à un prince de Nassau. Les billets du roi parvenaient à Charlotte par sa dame de compagnie, mademoiselle de Châteauvert, et sa servante Philippotte. Ses réticences semblaient avoir fléchi. Elle était même toute prête, disait-on, à se faire enlever, d'autant qu'elle s'ennuyait et que son mari, audacieux mais point téméraire, s'était sauvé jusqu'à Cologne. Hannibal, le marquis de Coeuvres et frère de cette Gabrielle d'Estrées qui avait été jadis la favorite du roi, s'était offert pour cette audacieuse entreprise avec 12 gentilshommes. Un courrier avait galopé en un seul jour de Bruxelles à Paris recueillir l'accord d'Henri. Cependant, la chose s'était ébruitée à Paris. Le roi s'était vanté, la reine avait appris de sa bouche même la date du retour de sa rivale et en avait prévenu les gens d'Espagne, lesquels s'étaient empressés d'avertir l'archiduc. L'enlèvement échoua donc. Quand le ravisseur arriva chez la belle, Spinola l'avait devancé. Bruxelles était en état de siège et l'oiseau n'était plus au nid. Je savais Contreras en cette ville et je l'imaginais mêlé à cette affaire, si bien dans la manière picaresque qui était pour lui une seconde nature. Il est vrai qu'il n'aurait pu y prendre part sans séduire la nymphe et auxir le marquis, et ce n'était pas ainsi, Dieu merci, qu'elle s'était conclue. L'occasion était belle en tout cas de narguer le commanditaire de cette mascarade. La princesse de Condé fut reçue avec faste au palais du Coudenberg et on fit même un bal en son honneur. Henri IV en fut fou furieux et donna l'ordre de préparer la guerre. Si elle éclatait, du moins aurait-on bien ri. Cette aventure s'était conclue le 14 février, on l'a su à Madrid dès le début de mars. Le 20 de ce même mois, qui était un samedi, je quittais vers midi la salle de l'Alcazar où j'avais fait répéter la chapelle et rentrais vers la chambre que j'occupais à l'arrière du palais quand je vis des hommes en armes sur le pas de ma porte. Mon cœur tressaillit vivement et je me souviens avoir eu à cet instant cette impression de vide dans la poitrine qu'on ressent en tombant dans un trou ou en manquant la marche d'un escalier. Qu'était-ce encore que cela ? Je m'approchai avec l'air assuré de l'homme qui n'a rien à se reprocher, ce qui était vrai, et qui ne s'effraie pas pour si peu, ce qui l'était moins. On avait ouvert ma porte, dont je gardais pourtant la clé, et je vis mes affaires éparses sur le sol. « Qu'est-ce cela, messieurs ? » fis-je avec autorité. « Qui vous a autorisé à entrer chez moi ? Je suis prêtre et je suis à sa majesté. » « Mais nous sommes tous à sa majesté, padre, » me répondit fort poliment le chef de ces gens, « et nous ne sommes ici que sur ses ordres. »« Mais que voulez-vous ? Que cherchez-vous chez moi ?» L'alcate répondit par une autre question. Il me montra une grosse farte de carton, fermée par des ficelles, toute pareille à celle où je gardais mes musiques. « Ceci est-il à vous ? Bah, « C'est possible, je n'en sais rien. Qu'y a-t-il là-dedans ? Des musiques ?»« Pas exactement, non, suivez-nous. » Appartenez-vous au Saint-Office? Pourquoi cette question? Avez-vous des motifs de le craindre? On me mena, sans autre explication, en une chambre fermée au bas du palais même. C'était plus grand qu'un cachot, il y faisait plus sec et moins froid sans doute, mais pour le reste, cela ne valait guère mieux. Je restai là 2 jours entiers sans voir personne, sinon celui qui m'apportait de quoi boire et manger. J'étais en proie aux pires inquiétudes. Je savais les façons qu'on a en ce pays pour tirer aux gens les vérités qu'on veut. Contreras les avait éprouvées, tout innocent qu'il était, et je n'avais pas son courage. Quant à cette fameuse farde, je ne savais évidemment ce dont il retournait. Si on avait trouvé chez moi des choses qui ne devaient pas y être et qui me valaient d'être ici, c'est qu'on les y avait mises. Ce qu'on était venu chercher, sans doute, l'alcade l'avait-il avec lui en entrant dans ma chambre. La question était plutôt de savoir ce qu'on me voulait réellement. Je n'avais rien fait d'inhabituel depuis mon voyage aux Pays-Bas, et même alors, quand j'aurais pu l'être, je n'avais nullement été inquiété. Fray Hieronimo ne m'avait depuis mêlé à rien qui pût me compromettre. Peut-être mon miséréré avait-il été considéré en haut lieu comme irrespectueux, voire séditieux, ou alors y avait-il là-dessous quelque vengeance? Nicolas, peut-être, avait-il l'ambition d'être vice-maître à ma place? Mais quelle défense adopter quand on m'accuserait? Ne devais-je pas invoquer mon état ecclésiastique pour récuser les juges et les interrogateurs qu'on allait m'envoyer? Si on voulait me rendre fou en m'enfermant ainsi, on n'était pas loin d'y arriver. Comme disait jadis ma mère Marguerite, mon esprit combattait. Ma nuit se peuplait de cauchemars et j'avais du mal au matin à faire la part du rêve et de la pensée raisonnable. Par comble de malheur, la paillasse qu'on m'avait donnée était bourrée d'un vieux foin qui me faisait étouffer. La porte s'ouvrit le mardi matin. Un seul homme entra dans la chambre, c'était le père Canot, le jésuite qui m'avait naguère fait partir aux Pays-Bas. Il me serra la main d'un air compatissant. « Monsieur de Namur, j'ai appris vos ennuis et j'ai obtenu de pouvoir vous visiter. Je me suis fait passer pour votre confesseur, » me dit-il avec des airs de conspirateur. « Et c'est un peu vrai, n'est-ce pas ?» Je ne le croyais guère, évidemment, mais que pouvais-je faire? Somme toute, cette visite était moins inquiétante que celle d'un quelconque tourmenteur. Je vous en sais gré, vous en savez plus que moi sans doute sur la raison de tout cela. Comment? Mais c'est moi, au contraire, qui venais m'informer. On m'a parlé d'un plan de révolte des morts de Saragosse qu'on aurait trouvé chez vous, mais je n'en sais pas plus. Vous avez sans doute été imprudent, cette affaire me semble grave. J'étais abasourdi. Je n'eus même pas la réaction de crier à la machination, à quoi bon d'ailleurs face à cet homme qui m'avait déjà manipulé comme un pantin. « Oh, je ne vous juge pas, » fit-il avec indulgence. « Au sein de notre ordre même, beaucoup sont d'avis qu'on a été trop sévère avec les morts, voire même trop peu chrétiens. Peut-être avez-vous été mêlé par votre ami. Comment encore ce Contreras qui voulait être roi de ces gens? Mais de là à conspirer. « Père Canot, » soupirai-je. « Vous savez que je n'ai rien d'un conspirateur. Vous savez que je n'ai jamais vu ces papiers qu'on a trouvés dans ma chambre, et vous savez sans doute qui les a mis et pourquoi. D'ailleurs, les gens de votre ordre savent toujours tout. À Paris et Namur, vos pères en savaient plus que moi sur mon propre voyage, et chez vous, même les muletiers, par toutes les langues de la terre, lancent le couteau comme des jongleurs de foire et courent les chemins quand on les croit à l'agonie. Alors, au nom du ciel, cessez cette comédie et dites-moi plutôt où vous voulez en venir. » « Voyons, ne me faites pas plus malveillant que je ne suis. Que je sache, vous n'avez pas eu trop à vous plaindre de votre voyage, ni même de ses suites. Coupable, non coupable, vous êtes prêtre et connaissez l'âme humaine, n'est-on jamais vraiment l'un ou l'autre? D'ailleurs, vous savez qu'en ce pays, même quand il est avéré qu'on a la conscience nette, on n'est plus nécessairement en état d'en profiter. Non, si je suis ici, c'est que j'ai toujours estimé vos talents et que je suis d'avis que vous pouvez être plus utile à votre roi hors de ces geôles qu'au dedans où votre imprudence vous a mis. J'allais encore une fois prendre la mouche et protester de mon innocence, mais je me ravisais. C'était évidemment inutile, et comme j'étais dans la casserole, autant savoir à quelle sauce je pouvais être mangé, choisir si possible la plus délicate. Si je comprends bien, Père Canot, vous allez encore me proposer quelques missions rédemptrices pour me sauver des tourments bien réels que me valent des méfaits imaginaires? S'il vous plaît de voir les choses ainsi, oui. Et où compte-t-on m'envoyer cette fois? Où iriez-vous, sinon encore où votre langue et vos attaches vous mènent naturellement? En France et aux Pays-Bas? Mais c'est cela même. J'aurai encore de mystérieuses musiques à porter à ceux de votre maison à Paris. Ah, vous allez rire, il n'est pas question de musique cette fois, mais de peinture. Que voulez-vous dire? Je veux dire que ce que l'on veut vous faire porter cette fois prendra l'apparence d'un tableau et non pas de musique. Dites-moi, quand j'ai fait tout ce voyage, voici 2 ans, les musiques n'étaient qu'un leurre, elles ne cachaient rien, n'est-ce pas? Il eut un air embarrassé et ne répondit pas. Je poursuivis. Pourquoi avez-vous fait cela? Pour m'espionner et compromettre ceux que je verrai, c'est cela? Je n'étais qu'un appât. Ah, Berlaymont et Contreras, la pêche n'était pas bien grosse, d'autant qu'ils sont tous deux passés depuis au travers du filet. Pensez ça si vous voulez, mais me croiriez-vous si je vous dis que c'était avant tout pour vous faire éprouver? Personne en Espagne n'avait plus de chance que vous de passer sans encombre à travers un pays ennemi. La langue, la mise, l'état, la familiarité des grands, ce qu'il faut à la fois d'aisance et d'effacement. De naïveté, dites le mot, vous ne serez pas le premier. Du moins, n'en aurez-vous plus quand vous repartirez. Mais tout cela, il fallait en faire l'essai pour être prêt le moment venu. Et ce moment est venu. Vous savez que nous allons avoir la guerre avec la France. Sa Majesté doit faire parvenir à Paris des plans militaires de la plus haute importance et aucune voie n'est sûre. Ah, j'ignorais que notre roi eût des armées à Paris. Il ne s'agit pas d'armées, fit-il d'un ton irrité. Vous avez pu voir qu'il se trouvait là un puissant parti espagnol, notre ambassadeur bien sûr, mais aussi beaucoup de nobles catholiques, ceux de notre ordre, ou du moins la meilleure part d'entre eux, et jusqu'à la reine de France elle-même et ceux de sa maison. Tout cela vaut bien une armée. Je savais que cette coterie travaillait fort à rapprocher les deux royaumes par le mariage de leur prince, et qu'il n'était guère d'enfant ni d'infante qu'elle ne voulût unir à un rejeton d'Henri IV. Il avait été d'abord question de marier l'infante Doña Ina et le dauphin Louis, projet cher en France au ministre Villeroy et au duc de Lerne en Espagne. Ensuite, quelques mois auparavant, un ambassadeur extraordinaire, le fier Don Pedro de Tolède, était allé à Paris aux fins d'arranger le mariage de Don Carlos, second fils de Philippe III, avec la princesse Christine, deuxième fille du roi, âgée de 2 ans déjà et point encore fiancée. Cette mission s'était fort mal passée et on avait fort méchamment commenté les façons de cet hérétique débauché qu'une aberration avait fait roi très chrétien. Quand Pedret avait fait remarquer que le palais de Fontainebleau était fort beau, mais qu'il était dommage que Dieu y fût si mal logé, le roi de France avait eu l'impudence de répondre qu'il s'y trouvait beaucoup mieux que dans les cœurs espagnols qui sont de pierre. Et quand l'ambassadeur avait regretté toutes les violations du traité de Vervins, qui risquait d'obliger son maître à monter à cheval, il avait osé rétorquer qu'il aurait, lui, Henri, plutôt le cul sur la selle que le roi d'Espagne le pied à l'étrier. D'ailleurs, conclut le jésuite, je n'ai pas à juger des intentions de Sa Majesté, pas plus que vous. Le père Canot me quitta pour ce jour-là. C'était donc clair, tout cela n'était que comédie pour me forcer à une nouvelle expédition qui apparemment n'était pas sans péril. C'est qu'il ne s'agissait plus de convoyer d'innocentes musiques et qu'avec la fièvre qu'on sentait poindre dans les deux royaumes, ce voyage pouvait être tout autre chose qu'une partie de plaisir. Mais encore une fois, que pouvais-je faire? Je n'étais qu'un jouet aux mains des puissants et l'étais même depuis longtemps. Le silence du jésuite était assez éloquent à cet égard. De deux mots, je ne pouvais que choisir le moindre. Le religieux revint le lendemain et m'exposa le détail des affaires publiques. Il nous revient que le roi Henri lève partout des troupes. Les armées qu'il destinait à la Lombardie et au Béarn ont fait demi-tour et on dit qu'il rassemble un train d'artillerie comme on n'en a jamais vu par le passé. Tout cela s'en va vers le nord, soi-disant vers le duché de Clèves, plus sûrement pour enlever dans le lieu où on la garde cette créature que partout il poursuit. Dans tous les cas, il lui faudra tomber sur les Pays-Bas. » Il continua longuement ainsi. Je m'efforçais de démêler dans ses propos la part de ce que pouvaient être les vues du gouvernement et les siennes propres. Ainsi, quand il parlait du roi Henri, cet hérétique dont les humeurs paillardes allaient causer la guerre, on lui sentait une animosité qui devait dépasser la vie des chancelleries. Je m'interrogeais aussi sur son rôle exact dans cette affaire. Les jésuites étaient bien puissants et bien en cour, certes, mais à quel titre pouvait-il intervenir ainsi dans les affaires de l'État? Et dans ce que j'aurais à faire, que devrais-je au roi et que devrais-je à la compagnie de Jésus? Le père Canot me fit comprendre qu'en tout cas, on ne m'attendrait plus en Espagne et qu'on accepterait volontiers qu'après avoir si bien et si longtemps servi sa majesté au point de m'en ruiner la santé, je me retire en mon pays et jouisse en paix de mes petits bénéfices. Aurais-je encore avec moi le frère Inigo? Ce ne sera plus nécessaire, fit-il avec son habituel petit sourire. Vous avez maintenant la pratique des longs voyages. On vous donnera des gens pour vous escorter, mais vous ne ferez guère la différence entre eux et les mulets. Une chose cependant, les frontières ne sont point fermées encore, du moins à ce jour, mais il est préférable que vous entriez en France plus discrètement qu'à l'ordinaire. Vous passerez par les montagnes, on vous y aidera. Pourrais-je au moins faire mes adieux à mes amis de la chapelle? Je ne pense pas qu'on vous y autorise, il vaut mieux pour vous qu'on vous croie toujours en prison. Ne cherchez pas non plus à revoir votre franciscain, ce fray Hieronimo. Et mes affaires, mes musiques, je ne puis abandonner ainsi les ouvrages de toute une vie. Je veillerai à ce qu'on vous les fasse apporter ici, ne prenez que le strict nécessaire. En effet, on m'apporta divers objets personnels avec le coffre où je mettais mes affaires. J'en fis le tri, je laissai là les recueils imprimés que je pourrais trouver ailleurs et gardai, outre mes propres musiques, nombre d'autres que je devais à mes compagnons ou à Philippe Rogier. Dans ma solitude, je passai de longs moments à parcourir ces pages. Chacune me rappelait un moment de ma vie, de mes premiers contrepoints malhabiles chargés de corrections, jusqu'au brouillon de mes lettres à la belle dame de Valladolid qui avait été cause des émotions les plus douces et les plus cruelles que j'avais connues en ma vie. Mes yeux se brouillaient à tous ces souvenirs. J'en fis un paquet que je serrai soigneusement avec mon épinette. Elle appartenait à la chapelle, sans doute, mais qui me disputerait cet instrument de peu de prix, modeste compagne de mes travaux de tant d'années. À la veille du jour où je devais partir, je trouvai une lettre dans le panier où l'on apportait mes repas. Elle était en français, de la main de Fray Hieronimo. « Mon ami, j'ai pu te trouver, mais non point t'aider. Les ordres qui te touchent sont affaires et secrets d'État. Tout ce dont on t'accuse n'est évidemment que feinte, mais je ne sais pour autant ce qu'au juste on veut de toi. Prends garde, obéis à ta conscience sans pour autant te rompre les os à des voies impossibles. Comme on dit en ce pays, cède le pas aux sots et aux taureaux. Comme on dit dans le tien, ne moque les chiens que tu ne sois hors du village. Garde sur toi le mot que voici ou que tu sois, il t'assurera l'appui de nos frères. Je prie pour toi. Et si nous ne devions plus nous voir, je bénis ton amitié. Dieu te garde. » Un billet d'épais papier était joint à la lettre, il était d'un latin assez obscur, dont je pus comprendre qu'il ordonnait qu'on aidât en tout son porteur. Il portait sur un seau de cire en forme d'amande l'antique saint François cum stigmatibus levant les mains sous un dé d'ogive. Enfin, nous arrivâmes au col. D'un côté, c'était l'Espagne, de l'autre, la France. Pour la raison que je devais pénétrer en ce royaume sans qu'on m'y vît entrer, j'avais dû monter jusque-là par des chemins impossibles où ne passait nul voyageur, surtout en cette saison. Il y avait belle lurette qu'on avait quitté les bonnes routes pour des sentiers pleins de caillasses, le long de torrents gonflés par la fonte des neiges. On avait logé dans une cabane, en un hameau de quelques maisons, nommée Tavascan. J'avais l'impression de n'avoir pas fermé l'œil de la nuit, dérangé par le bruit de l'eau, le froid et l'air des hauteurs. On était reparti tôt matin, dans le noir, sans avoir rien avalé d'autre qu'un morceau de pain et une lampée de vin au méchant goût de pois. Les choses s'étaient alors gâtées, il n'était même plus question de chemin, mais d'une sorte de trace courant dans l'herbe rase et les rochers. Notre guide, un sauvage du pays, poilu comme un singe, nous avait montré le col dans la blême lumière de l'aube. J'avais cru qu'il se moquait de nous, tant le passage paraissait inaccessible, à peine plus bas que les pics qui maintenant nous environnaient de toutes parts. Mais en montagne, on parvient toujours là où l'on ne pense jamais passer. Il se trouve toujours un passage qu'on ne voit pas, un rocher plus haut que l'autre qui fait gagner quelques pieds de hauteur. Comme je voyais les mulets lourdement chargés grimper sur ces montagnes comme s'ils étaient sur la grande route, je n'osais pas trop maugréer. J'avais mal aux pieds, j'étais essoufflé, je souhaitais presque qu'il me vînt une crise d'étouffement qui, du moins, m'aurait permis de m'arrêter un peu. Mais non, malgré la fatigue, l'air vif entrait et sortait de ma poitrine plus librement qu'il n'avait jamais fait. En 3 ou 4 heures, nous étions arrivés. Nous, c'est-à-dire les deux brutes qu'on m'avait donnés pour compagnie, le guide de l'escorte que j'avais depuis Madrid, 4 soldats et un officier presque aussi silencieux que naguère Inigo. Padre, me dit celui-ci, nous voici, à ce qu'il paraît, à la frontière. La France est donc là-dessous. Plus bas, bien plus bas, on voyait quelques masures semblables à celles que nous avions quittées le matin. Hélas, il y avait là surtout de la neige, quantité de neige. Le printemps avait certes été précoce, mais s'il avait dégagé sur les flancs exposés au sud quelques plaques d'herbe, on ne voyait encore de l'autre côté qu'un tapis de blanc et de gris, sans autre preuve d'un quelconque passage que quelques traces d'animaux. Mon capitaine était soucieux. Il se concerta avec le guide, qui indiquait du doigt une possible voie sur cette pente blanche et raide. Je restai un moment à l'écart, reprenant mon souffle et mangeant un morceau tout en regardant vers le sud. Ainsi, j'allais pour toujours sans doute quitter l'Espagne. Ce que j'en voyais à ce moment était bien loin de l'image que me laisserait le quart de siècle que j'y avais passé, ces pics enneigés, découpés comme des forteresses, pyramides de blocs immenses que l'on eût dit taillés par l'homme, étaient aussi différents des collines pelées de la vieille Castille que les sapins, là-bas dans la vallée, étaient étrangers aux oliviers et orangers qui sont l'ordinaire végétation de ce pays. Vers le sud, à 100 lieues déjà, se trouvait Madrid, les compagnons des premiers jours que je ne verrai plus. Je les avais quittés comme un voleur, sans un adieu. Mathieu, le capitaine, Philippe qui semblait bien malade, comme prêt pour un autre voyage, Nicolas, si longtemps mon autre moi-même, dont un peu de malchance et beaucoup de sottise, avait fait mon ennemi. Combien d'autres n'avaient-ils pas disparu, plus nombreux déjà que les vivants? Valladolid devait être plus du côté du couchant. Portant les yeux sur les nappes de brouillard qui montaient de ce côté de la vallée, je vis voltiger une nouvelle fois le petit fantôme qui m'avait hanté jusque-là chaque jour, et que ce départ sans retour condamnait à n'être plus jamais qu'illusion. J'ai toujours été sensible à ces symboles que sont les années nouvelles ou anniversaires, le passage d'un temps dans un autre, comme je suis attaché aux souvenirs anodins d'êtres chers et de temps révolus. Ce passage entre les montagnes était sans doute la borne la plus marquante sur le chemin de ma vie, et je le savais en le passant. Le capitaine interrompit ma rêverie. Voilà, padre, ce qui me semble le plus sage. Nous pensions vous laisser descendre seul, car nous n'avons pas le droit de passer la frontière, mais ce n'est pas prudent, il y a trop de neige. Le passeur qui nous mène semble sûr de la voie à suivre qu'il a faite 100 fois à la belle saison. Il nous conduira et mes hommes traceront le passage. Si tout va bien, nous serons à ces maisons avant la nuit. L'important est que vous en partiez très tôt demain, de préférence au milieu de la nuit, et qu'au jour vous soyez sur des chemins où il est naturel de passer sans qu'on devine d'où vous venez. Qu'il en soit ainsi, allons-y. Je dus donc m'arracher à mes rêveries et la descente commença comme le capitaine l'avait prévu. Cela n'alla pas sans peine. Les soldats enfonçaient dans la neige jusqu'au-delà de la taille. Ils faisaient bien de grands efforts pour la tasser de leur corps et tracer un chemin aux autres, mais cela ne suffisait plus. Les mulets s'y assuraient tantôt, quand ils avaient le pied ferme, renâclaient maintenant, hennissant de peur, et il fallait user d'arguments contondants pour les convaincre d'avancer. Heureusement, il ne semblait pas y avoir ni trous, ni trop gros rochers dans cette descente que l'on prenait de biais pour en atténuer la pente. Quant à moi, je m'en tirai à ma façon, laquelle ne manquait pas d'originalité. Je découvris qu'il était plus commode de me laisser aller sur le derrière que de marcher avec tant de peine. À ce train, je fus vite trempé, mais perdis en inconfort du fondement ce que j'économisais en fatigue. Enfin, nous parvînmes sans incident notable aux maisons que nous avions vues d'en haut. Elles étaient inoccupées. Il devait s'agir de masures où les pâtres ne vivaient qu'à la belle saison quand ils gardaient leurs bêtes dans la montagne. Le guide fit savoir dans son charabia que le chemin ne comportait plus là de difficultés notables et que je pourrais m'en sortir. En effet, il y avait moins de neige et la pente semblait plus douce jusqu'au fond de la vallée, et l'on voyait maintenant distinctement la fumée des cheminées. Cet avis fit l'affaire de mon escorte qui me quitta sans cérémonie pour rebrousser chemin et rentrer avant la nuit où elle était partie matin. « Bon voyage, Padre, » me dit le capitaine avec un respect mêlé de perplexité. Il devait se demander quel était ce singulier personnage qu'il avait dû convoyer sur ordre du roi par des chemins si peu commodes, avec pour bagage des accessoires aussi curieux qu'une peinture de l'adoration et une petite épinette. Je me retrouvai donc seul avec mes 4 mulets et les 2 valets qu'on m'avait donnés. Je m'étais d'abord demandé s'il n'y avait pas dans cette compagnie quelque ruse de jésuite, si elle ne me valait pas quelque surprise du genre de celle que le frère Inigo m'avait jadis réservée. Mais non. Il devait y avoir plus de jugeotes dans la tête d'un seul de mes quadrupèdes que dans la cervelle racornie des 2 pauvres d'esprit qui m'accompagnaient. Au jargon dont ils usaient entre eux, j'avais jugé qu'ils étaient d'Italie. Ils n'entendaient en tout cas que quelques mots d'espagnol, aucun de français. Le calcul n'était pas mauvais. Comme on trouve partout des gens de ce pays, dont tous les princes d'Europe se partagent les provinces, en avoir avec soi ne donne pas couleur plus espagnole que française. Ceux-ci offraient en outre 2 rares commodités. Ils étaient si bornés qu'on eût pu leur couper les oreilles sans tirer d'eux le moindre renseignement utile, et ils avaient si vilaine figure que les coupe-jarrets les plus résolus eussent pensé à changer d'état plutôt que de s'en prendre à eux. Je ne sais ce qu'on leur avait dit à mon endroit, toujours est-il qu'ils me servaient comme des esclaves, avec même une sorte de crainte animale. Les choses se passèrent comme prévu. Les premières heures de la nuit furent également partagées entre des rêves de chutes sans fin en des précipices enneigés et les grelottements de réveils subis, après quoi nous repartîmes dans le clair de lune. Le chemin était assez commode et à 8 heures, nous traversions le premier village français comme donné de voyageurs. J'avais pour instruction de rallier Paris au plus vite. Pas question donc cette fois de traîner en route, de goûter à l'agrément d'un voyage dans des pays nouveaux. J'abattis ainsi mes 12 ou 15 lieues par jour. Au matin, je spéculais in petto sur les tenants et aboutissants de mon équipée. Je combinais des stratégies subtiles pour échapper à ces puissances dont j'étais le jouet. Puis la fatigue me prenait et je me résignais d'avance à tout ce qui pourrait m'advenir, comme les morts s'en remettent à la volonté de leur dieu qu'on les mène au bûcher ou que leur navire fasse naufrage. Dans mes affaires, j'avais donc cette fameuse peinture qu'il me fallait remettre à l'ambassadeur d'Espagne en personne ou par le truchement du père Gontier. L'œuvre figurait donc les 3 rois qui s'en venaient déposer leur présent devant l'enfant Jésus. Ils étaient assez joliment faits. Pouvait-on imaginer objet plus innocent dans le bagage d'un religieux? Ce n'était qu'apparence, car on me l'avait dit, Melchior, Balthazar et Gaspard cachaient des secrets d'État et sous la toile se trouvaient les plans complets de la guerre qui s'annonçait. On m'en avait même confié le plus gros. Les troupes des Pays-Bas, fortes de 30 000 hommes, devaient s'assembler à Namur et se porter à la rencontre des forces françaises, tandis qu'une autre armée espagnole prendrait celle-ci à revers, marchant sur Paris au départ de la Savoie. J'étais assez content qu'on m'eût mis ainsi dans le secret. Ma première ambassade sans doute était chimérique, mais du moins m'avait-elle fait juger digne de quelque confiance. Rien de marquant ne m'advint pendant ce voyage, qui me vit passer à Toulouse, Bourges et Orléans, selon l'itinéraire qui m'avait été recommandé et qui était le plus court jusqu'à Paris. Nul ne s'enquit de ma personne et on me traita partout fort civilement. Partout cependant on parlait de la guerre. On la tenait pour assurée et il n'était aubergiste ni tavernier qui n'eût opinion sur la question. Ici et là, les garnisons de province étaient passées au début d'avril, qui avaient ordre de rallier à marche forcée la Lorraine. C'est donc de là que partirait l'attaque. Pour la date, on la voyait généralement vers le 20 mai, le temps pour le bon roi Henri de rejoindre son armée après le couronnement à Saint-Denis de la reine Marie. Quant au casus belli, les stratèges de comptoir ne se cassaient pas la tête. On ne parlait guère comme à Madrid de cette Charlotte que le roi voulait aller chercher manu militari, ni encore moins du lointain duché de Clèves, dont le sort était l'officiel sujet de la discorde. Certains avaient de vagues idées sur le dessein de Sully, d'arranger l'Europe à sa manière, mais fallait-il vraiment une bonne raison pour défier de rechef l'ennemi de toujours? Tout ce qui servait à la splendeur d'un des 2 royaumes était utile à l'abaissement de l'autre. Étripé de l'Espagnol avait toujours été le principal souci du roi, et avant lui des 2 autres Henri ses cousins, et plus loin encore du roi François, c'était la raison suffisante. C'est l'après-midi du 13 mai que j'entrai par la porte d'Orléans dans la capitale du royaume de France. Il y avait là grande liesse, car c'était le jour du sacre de la reine, chômé comme une fête chrétienne, et on avait mis en perse pour réjouir le peuple quantité de barriques. Je riais de voir mes deux brutes de muletiers écarquiller les yeux au spectacle de cette ville sans égale dans l'univers. Eux-mêmes faisaient sans savoir grosse impression, et il était heureux qu'ils n'entendissent point le français, tant leur aspect éveillait autour d'eux de commentaires cocasses. Les plus flatteurs, c'est dire, faisaient d'eux des singes ou des ours qu'on allait montrer au jardin du Louvre. Je trouvai à me loger à l'auberge de la Pomme d'Or, où j'étais descendu 2 ans plus tôt. On m'y reconnut, ou du moins on fit semblant, et on me laissa entendre que seule cette référence me valait de recevoir une chambre, vu qu'elle devait être la dernière en une ville où il était venu tant de monde pour le sacre. Je n'étais pas dupe, c'était plutôt un prétexte pour me la faire payer au prix fort, ce qui m'était d'ailleurs parfaitement indifférent. Le sacre s'est fait à Saint-Denis, dans l'abbatiale où le roi très chrétien s'était converti 17 ans plus tôt. C'était l'occasion de grande magnificence, et on avait dû même retarder de 3 jours la cérémonie, fixée à l'octave de Pâques, pour que tout fût fin prêt. Le bon peuple s'y était fort esbaudi, spécialement en voyant l'ambassadeur Foscarini se crêper le chignon pour une question de préséance avec son excellence d'Espagne, le fier Don Inigo de Cardenas en personne. Je m'étonnais qu'on fêtât ainsi le sacre de la reine Marie, dont il me semblait qu'elle régnait depuis longtemps déjà. Elle avait obtenu cette faveur de son volage époux comme une sorte de compensation aux infidélités innombrables qu'elle avait eues à subir. De guerre lasse, le roi s'était résigné 3 mois plus tôt à ce caprice de celle qu'on appelait sa Junon, pour ce qu'elle était de naturel robuste, riche de taille et en bon point, comme ces grasses déesses qu'on voit au tableau de nos maîtres flamands. Si le tempérament d'Henri ne laissait hélas augurer nulle accalmie, du moins serait-elle assurée, sacrée solennellement, de ne pas devoir céder sa couronne à quelque favorite plus jeune et plus plaisante qu'elle. Cela s'était vu, et la reine Margot, qui l'avait précédée dans la couche royale, ne s'en était-elle pas fait chasser? La précaution était sage, car la toquade d'Henri pour cette Charlotte de Montmorency pouvait faire craindre la récidive. Si le vieux satyre était folassé pour soutenir sa flamme au feu d'une guerre, ne pouvait-elle s'attendre à tout? D'aucuns ont depuis affirmé qu'il y avait là plus qu'une précaution et que le sacre de Marie de Médicis était inscrit dans l'ordre des choses de ce qui devait se passer ces jours-là, mais qui suis-je pour en juger? Chacun sait ce qu'il advint en mai de cette année 1610, le 14e jour et les suivants. Si ma modeste histoire fut alors mêlée à celle du royaume de France, ce fut bien malgré moi, mais ce fut bel et bien. On ne m'en voudra donc pas de mêler mes propres souvenirs à la relation que d'autres chroniques ont faite depuis de ces événements. C'est que les lumières de ces derniers sont nécessaires pour comprendre ce qui m'advint, et peut-être l'inverse n'est-il pas faux non plus. Les astrologues que fort écoutés à la cour de France avaient averti Henri IV qu'un grand péril le menaçait. De l'avis du mage Lavrose, je ne sais quelle constellation sous laquelle sa majesté était née, en était le signe sûr. À Sienne, la nonne Pacité, voilée de noir, avait, comme d'autres, prédit qu'il ne passerait pas la 58e année de son âge, qu'il mourrait même à la première magnificence qu'il ferait. Enfin, un astrologue nommé Thomasin, fort réputé pour ce qu'il voyait le diable, était même venu voir le roi à son jeu de cartes, l'avertissant de prendre garde au 14 mai, car ce jour-là, à 4 heures de l'après-midi, un grand prince mourrait. Henri s'en était moqué, l'avait saisi par la barbe et fait ainsi tournoyer 3 fois, avant de le renvoyer en disant les Espagnols plus habiles à fabriquer les oracles que les canons. Les signes funestes ne manquaient pas. Le grand mai de la cour du Louvre était tombé sans un souffle de vent du côté de la chambre royale. Le peuple parlait d'un enfant né à Babylone, antéchrist parlant à l'âge de 8 jours et faisant tomber la manne du ciel. En France même, il avait plu tout l'hiver, puis une chaleur brutale avait fait fleurir les arbres et éclore les violettes au 1er jour de janvier. D'ailleurs, la Loire n'avait-elle pas débordé, causant de grands ravages, comme elle avait fait les années qui avaient précédé les morts d'Henri II et Henri III. Devant tant d'augures funestes et concordants, le roi était soucieux, on le serait à moins. Il était sombre même avec les dames, signe assez sûr chez lui d'un réel tracas, mais ne voulait pas pour autant changer le cours ordinaire de ses occupations. Le 14, après avoir très mal dormi, il avait entendu la messe aux Feuillants, s'était promené aux Tuileries, s'était entretenu des affaires militaires. J'ignorais évidemment tout de ces royales inquiétudes arrivées la veille de ce jour fatal et n'ayant vu personne. Je m'étais présenté le soir même de mon arrivée à la maison des Jésuites pour remettre mon encombrant message, mais le père Gontier n'y était pas et on m'avait prié de revenir. Le père de Charlotte, le vieux Montmorency, avait lui-même réclamé sa fille à l'archiduc, lui disant que s'il la rendait, son roi le regarderait comme un ami et se contenterait d'envoyer quelques troupes à Julien sans y aller lui-même. Albert redoutait la guerre, mais ne pouvait céder ainsi. Les jésuites, habiles dans la nuance, lui avaient laissé entendre que laisser la belle s'évader sans trop la poursuivre, ce n'était point la livrer et que l'honneur serait sauf. La semaine précédente, par la voix de M. de Berny, Henri IV lui avait demandé de traverser ses états du Luxembourg. « Pour ce que mon chemin s'adresse à passer dans vos pays, lui avait-il dit, j'ai désiré vous en avertir et savoir si j'y dois entrer en ennemi ou en ami qui ne veut commettre aucun acte d'hostilité. » Albert y avait habilement consenti, ne voulant mettre les torts de son côté, sous condition qu'on lui indiquât le temps et le lieu de ce passage. Les troupes s'étaient donc mises en marche. Cette nouvelle, cependant, pas plus que celle du bon accueil que leur faisait le peuple des Pays-Bas, n'avait rendu au roi meilleure humeur. Il avait prévu de partir pour la guerre le 18 mai, après avoir chassé le cerf une dernière fois et fêté le mariage d'une de ses filles bâtardes. On lui prêtait l'intention de courir sur Bruxelles et d'y enlever Charlotte lui-même, tandis que l'infanterie retiendrait les forces espagnoles entre Mézières et Namur. Jusque-là, le roi de France était cependant résolu à remplir ses devoirs et devait ainsi traverser Paris pour aller à l'arsenal où on l'attendait. Il y partit donc avec ses gens dans un grand carrosse, refusant l'escorte que son capitaine des gardes voulait lui donner. Il y avait grande presse dans la rue de la Ferronnerie qui longe le mur du cimetière des Innocents. Deux charrettes s'étaient accrochées et la voiture dut s'arrêter entre l'étude de Maître Pourcin et une auberge à l'enseigne d'un cœur percé d'une flèche. C'est là qu'un homme sauta sur le marchepied et frappa le roi par trois fois. C'était un géant roux, tout de vert vêtu, qui avait nom Ravaillac. Il ne se sauva pas, quoiqu'il eût été facile de le faire dans la foule, et le duc d'Épernon le fit arrêter. Quant à Henri IV, il mourut en peu de temps. La nouvelle de l'assassinat se répandit dans la ville comme une traînée de poudre, de sorte que je la pris rapidement. Partout on fermait les boutiques, le peuple se lamentait et on le voyait sincère. Je ne savais que penser. Je me dis d'abord que la mort de ce roi honni allait fort réjouir mes princes, et en effet ce fut grande allégresse, tant par-deçà que par-delà. L'archiduc Albert en fut félicité comme s'il avait gagné une bataille, et Philippe III, s'entendit dire de l'archevêque de Valence, « Votre Majesté doit se pénétrer de la parole de saint Paul, si Deus pro nobis qui contra nos. » Quant à moi, qui n'avais jamais vu Henri IV, ce que j'en avais entendu me le rendait plutôt sympathique. D'ailleurs, les larmes de son peuple sont la plus sûre mesure de la valeur d'un roi, et je ne pensais pas que la mort de Philippe III eût causé en Espagne, au-delà des lamentations de convenance, tant de chagrin véritable. Mais surtout, je m'interrogeais sur les conséquences de ce drame sur ma mission. Avait-elle encore un sens, maintenant que le fauteur de guerre n'était plus ? Je retournai donc dès le lendemain à la maison de la Compagnie de Jésus, où je trouvais grand remue-ménage. On y entrait et sortait comme dans un moulin, et là où d'ordinaire on pensait être dans un confessionnal, tant les conversations étaient feutrées, tout en murmures et en sous-entendis, voilà qu'on entendait presque comme des éclats de voix. Mais par-dessus tout, on avait l'impression d'une intense jubilation. Manifestement, les événements récents ne faisaient pas que des affligés. « Le père Gontier en ce moment, et pourquoi pas le père Coton tant que vous y êtes, me dit-on, quand je demandais à être reçu. »« C'est que j'arrive d'Espagne avec sans doute des informations d'importance. »« Sans doute, dites-vous, vous n'en êtes pas sûr. Et que peut-il nous venir d'Espagne qui soit plus important que ce qui se passe ici ? Enfin, patientez dans ce cabinet, je vais voir si le révérend est là et s'il peut vous recevoir. »« Qui dois-je annoncer ? Dites que le père Cano m'envoie. » J'entrai donc dans une pièce qui pouvait être aussi bien un parloir qu'une bibliothèque, où se trouvait déjà un autre visiteur, un laïc d'âge mûr et de belle prestance, qui me salua fort civilement. Il parut intrigué par mon habit. « Mon père ou mon frère ?» me demanda-t-il en souriant, « mais que faut-il donc dire ? Excusez-moi, je ne reconnais pas l'habit de votre ordre. » Vous êtes excusable, je n'appartiens à aucun, je suis séculier, pauvre chanoine d'une obscure province. Ah, si obscure que je ne reconnais pas non plus l'accent, mais enfin, je ne me ferai pas indiscret. » Il poursuivit nonchalamment l'examen des reliures joliment alignées sur tout un pan du mur, tandis que je m'asseyais en soupirant. « Et vous qui venez de loin, » reprit-il d'un ton badin, « que pensez-vous de toute cette agitation que nous avons à Paris ?»« J'en pense peu de choses pour la raison que je viens à peine d'arriver. » Je crus devoir me fendre d'un petit couplet sur le chagrin que j'avais de cet odieux attentat qui privait le royaume d'un si bon roi. « Tapez là, monsieur l'abbé, vous êtes un honnête homme. Hélas, tous ne pensent pas comme vous, et je dis que ce Ravaillac tombe bien à point pour certains. »« Comment cela? Je ne vous entends pas. » « Oh, je ne trahis nul secret, et ce que je vous dis, c'est ce qu'on entend partout à Paris. Quand Ravaillac eut frappé, qui donc s'en saisit, le mit au secret, empêchant que quiconque lui parlât, réglât toute chose ?»« Je ne sais. C'est le duc d'Épernon, qui se trouvait dans la voiture avec le roi. D'Épernon, contre qui on avait prévenu sa majesté voici peu de jours, et qu'on avait accusé de conspirer avec la marquise de Verneuil. Il a tout pris en main d'autorité, comme si tout était combiné d'avance. » Même Sully a jugé prudent de se retrancher à la Bastille. Ce nom d'Épernon et Verneuil m'était parfaitement inconnu, mais je n'en laissais rien paraître. Comme on ne venait pas nous chercher, mon interlocuteur poursuivit. « Et qui parla ce matin le premier à Ravaillac après son forfait ? C'est le père Coton. » « Le confesseur du roi ? Bah, évidemment, en connaissez-vous d'autres ? Le révérend père le traita bien sûr comme un grand criminel, mais lui dit aussi, et on l'entendit, de ne pas se mettre en peine les gens de bien. Singulier propos. Et ce n'est pas tout. Qui donc a confessé l'assassin ? Le père d'Aubigny. Ça fait beaucoup de jésuites pour un seul homme. D'autant que ce bon père a pris des airs mielleux pour dire qu'un religieux comme lui était tout aux affaires divines et n'entendait rien à celles du monde. Dieu lui a fait, à ce qu'il paraît, cette grâce singulière d'effacer incontinent de sa mémoire tout ce qu'on lui a dit sous le sceau de la confession. Vous verrez, ces jésuites auront quelques soucis dans les prochains jours, le peuple gronde. Monsieur, je ne sais qui vous êtes, mais vos propos me semblent bien audacieux, surtout en ces murs qui nous accueillent. « C'est que je suis docteur en Sorbonne, me dit-il d'un air entendu. Mon nom est Gamache. » J'ignorais ce nom comme la haine des professeurs de cette université pour la Compagnie de Jésus. Cela semblait tout expliqué aussi, n'insistais-je pas, de peur de passer pour un lignard. Il poursuivit. « Ah, ce que je vous dis, tout le monde vous le dira, il ne faut pas y voir malice, d'autant que ce trépas arrange bien d'autres personnes. » « Et qui cela, s'il vous plaît ? » Ne voyez-vous pas au plus haut de l'État quelques personnes dont la position s'est singulièrement affermie depuis quelques jours ? Ben non. Ben, ventre saint gris, comme disait le feu roi. Qui donc a-t-on sacré, voici seulement deux jours ? Sa Majesté la Reine, vous n'allez pas dire « Oh, je ne dis rien ». Mais voyez avec quelle promptitude le Parlement vient de lui conférer la régence. Ah, les choses étaient bien préparées avec ce petit roi Louis, si gracieux sur sa mule blanche, s'en allant haranguer les États dans son petit habit violet. D'autant que tout cela n'allait pas de soi, ni sur le fond, ni sur la forme. Pourquoi diable en appeler au Parlement qu'on n'avait jamais chargé d'une telle affaire ? Mais vous accusez la reine ? Mais non, mon bon père, il est cependant, derrière sa majesté, nombre de gens dont les intérêts ne sont pas précisément ceux de la France. Tenez, toute cette coterie d'Italiens qui l'entourent, qui sont à la solde de l'Espagne. Ah bon, voilà l'Espagne maintenant ? L'Espagne, voilà notre ennemi le plus sûr, et qu'il a prouvé depuis assez longtemps. La voici de la main de Ravaillac, délivrée d'une guerre qu'elle allait perdre, débarrassée d'un roi qu'elle a toujours tenu pour hérétique et pourvue demain d'un gouvernement, tout à sa dévotion. Croyez-moi, si j'avais été Philippe III, c'est là exactement ce que j'aurais fait. J'aurais envoyé quelques courriers secrets pour ordonner ce qui est arrivé. C'était bien le moment, une fois le roi parti aux armées, il était trop tard. J'étais un peu troublé. Ne pouvais-je être ce courrier ? D'autant qu'adressé indifféremment à l'ambassadeur ou au père Gontier, je touchais déjà à deux de ceux que ce curieux procureur soupçonnait d'avoir expédié ad patres le bon roi Henri. Je savais heureusement que le message dont j'étais porteur touchait plus noblement à la conduite de la guerre. Le duc d'Épernon, les jésuites, la reine Marie, l'Espagne, voilà, monsieur, bien du monde que vous mettez en cause. Ne trouvez-vous pas, comme on dit, que qui trop embrasse, mal étreint ? Ah, vous avez raison, et c'est ce qui m'embarrasse. Cela fait trop de gens à mettre d'accord. Je suis homme de loi, et l'on dit en notre jargon que le paiement est le prix de la course. Eh bien, j'ai un peu l'impression que ceux qui ont armé Ravaillac ont été les plus rapides, mais qu'au rebours de l'adage, tous en tirent profit. Nous attendîmes un moment encore sans qu'on daignât nous introduire, ni même s'enquérir de nous. Ce bourgeois éclairé, dont je ne savais rien, sinon qu'il était homme de loi et de Sorbonne, se leva brusquement et prit congé assez irrité que les bons pères l'aient si longtemps fait faire antichambre. « Eh bien, je crois qu'on se moque de moi, sinon de vous, et qu'on ne nous recevra pas. Je retrouverai bien ces bons pères d'une autre façon. Monsieur l'abbé, j'ai bien l'honneur. » Je fis comme lui un quart d'heure plus tard, sans que, de tous ces gens affairés, quiconque s'enquît de moi. Puisque les jésuites se souciaient de moi autant qu'un poisson d'une pomme, je me résolus à demander audience le lendemain à Don Inigo de Cardena, ambassadeur d'Espagne. Entre-temps, je me promenais dans la ville. Le peuple était en effet fort agité et commentait fiévreusement chaque nouvelle. On avait vu Marguerite de Valois rentrer de sa campagne, elle y était partie dès après le sacre et y fêtait ses 57 ans, en galante compagnie sans doute, à l'heure où trépassait son royal époux de jadis. On semblait préférer Margot à Marie, l'ancienne reine à la nouvelle. On louait encore la bonne grâce qu'elle avait eue de paraître à Saint-Denis, portant fièrement le diadème royal et le manteau bridé de lis d'or, la bonté qui était sienne de rehausser la cérémonie de musicien à sa livrée, pourpoint de satin blanc et chausse de velours bleu. J'entendis répéter partout, avec moins de finesse et davantage de colère, les propos que j'avais entendus dans le parloir de la compagnie. On voyait çà et là des affiches accusant ouvertement les jésuites d'avoir armé Ravaillac. J'appris qu'on avait ouvert et embaumé le défunt souverain et que son cœur avait été donné à ces messieurs. Henri IV leur avait naguère donné 100 000 écus avec la faveur insigne que ce vicaire serait déposé en leur collège de la Flèche. C'était jusque-là le privilège de Notre-Dame de Paris dont les chanoines avaient crié fort. L'un d'eux outré avait même demandé lequel les jésuites aimaient mieux, de mettre le cœur du roi dans la flèche ou de mettre la flèche au cœur du roi. On se rappelait ces paroles, et la nouvelle, loin d'apaiser les Parisiens, redoublait leur ressentiment. C'était là une nouvelle preuve de la perfidie de la bête noire, car on ne nommait plus autrement cet ordre « bête » qui ne devait qu'à l'affection du roi d'être revenue à Paris, d'où elle avait été justement et honteusement chassée. Voilà comment le bon prince avait été payé en retour. En allant ainsi innocemment jusqu'à la rue de la Ferronnerie, où il y avait grande affluence, je me posais de plus en plus de questions sur mon rôle exact dans cette affaire. Ah certes, si j'avais sans savoir partie liée au complot, ma peau ne vaudrait pas cher, si cette foule en colère venait à l'apprendre. Et si cela était, j'en arrivais aussi à penser qu'un messager comme moi pouvait s'avérer bien embarrassant. N'y avait-il pas là, pour moi, péril plus grand encore ?